Moi, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a tous été à l'école très longtemps. Donc, je vais prendre presque un contrepoint de départ au moins, qui est on a tous été à l'école et on a tous été évalués. On a tous été dans un système où l'évaluation était absolument centrale. Et comme philosophe, la première chose que je peux faire, c'est de dire, tiens, quand on baigne dans un climat de ce type-là, on a tous un certain nombre de préconceptions de ce que c'est que l'évaluation. Et donc, c'est pas mal important de pouvoir en sortir un tout petit peu. Parce que il m'arrive de travailler sur l'évaluation avec une équipe de travailleurs. Et il y a beaucoup de craintes, en fait. Et c'est normal, parce que quand ce passage par l'école fabrique un certain nombre d'anxiété, mais qui parfois surdétermine les façons dont on évalue, en essayant d'éviter, par exemple, le fait d'être évalué subjectivement, en se disant, mais à l'école, ça a été vraiment une moulinette de comparaison des résultats, et donc on va essayer de surtout pas faire ça. Donc la première chose que je dirais, c'est quand on se demande comment évaluer, il y a d'abord à aller voir un peu du côté des craintes qu'on a et à les partager d'abord pour essayer de ne pas construire des systèmes d'évaluation qui sont surdéterminés par tout ce qui nous effraie dans l'évaluation. Alors pour vous dire un petit mot sur d'où je parle, du coup pas du tout de l'évaluation à l'école, autant que possible même essayer de s'en libérer mentalement un petit peu pour pouvoir défendre une version positive de l'évaluation malgré les scories de ce passage-là, disons, pour mon regard sur l'évaluation, évaluons, c'est super capital, mais avec un certain nombre de points de vigilance, à la fois sur les craintes et à la fois sur un certain nombre de réflexes qui sont acquis par ce passé scolaire. Deuxième réflexe de philosophe, c'est opérer une distinction. Parce que je n'arrivais pas à répondre à vos quatre questions, là, mon regard sur l'évaluation, les avantages de l'évaluation, parce qu'en fait, j'ai un petit problème avec ce mot-là, l'évaluation. Je ne sais pas de quoi on parle et si c'est si évident, en fait, de mettre ça comme si c'était un bloc. Alors, je vais juste diviser ce bloc en deux choses que je mets presque des pôles opposés, disons, mais avec le fait que je trouve intéressant de circuler entre ces pôles. Donc c'est pas juste opposer des formes d'évaluation et on ferait l'une plutôt que l'autre, c'est distinguer deux choses et puis se demander comment on les réconcilie ou comment on travaille avec les deux pôles tout le temps. D'un côté, il y aurait, c'est quelque chose que tu as évoqué au passage, le fait qu'on ne cesse d'évaluer, en fait. Là, je suis en train de vous parler. Il y a plein d'opérations qui se passent sur est-ce qu'on m'entend, est-ce que c'est clair, vers où je vais. Et vous voyez que ces processus-là, c'est de l'évaluation qui donne une orientation à ce que je vais faire, mais aussi qui fabrique le sens. C'est-à-dire, c'est parce que je ne cesse de me demander pourquoi je fais ce que je fais que ce que je fais a du sens pour moi à un moment donné. Je peux pas. Si je n'évalue plus de cette façon-là, si j'ai plus ce rapport de tissage permanent sur je fais comment, je fais pourquoi, je fais ceci ou ça, etc., ben, à un moment donné, je vais juste faire ce qu'on me dit de faire et je vais supprimer ce processus-là et l'activité risque de devenir un truc, je fais ce qu'on m'a demandé, quoi. Donc, en fait, ça va, ce processus-là, il est à soigner. C'est-à-dire, le problème, c'est que l'autre pôle risque de contaminer celui-là. Et l'autre pôle, c'est le rapport d'évaluation, le fait qu'à un moment donné, il faut produire un rapport et que ça pourrait être, effectivement, avec tout un monde de l'évaluation, un rapport où il faut montrer qu'on a atteint des objectifs. On s'est donné voilà les moyens qu'on a mis en place, voilà les indicateurs qui nous permettent de mesurer après coup si, oui ou non, on est parvenu à notre résultat. Et en fait, ce deuxième pôle-là, qui est le bilan après coup et affiché, rendu à l'administration peut-être de ce qu'on a fait, risque, en fait, parce qu'on doit rentrer dans ces cases-là, parce que c'est ces objectifs-là qu'on n'a pas toujours choisis, qui viennent d'en haut, qui sont peut-être très macro, ce côté énorme un peu des grosses cases qui pourraient éventuellement, en tout cas c'est dans les choses qu'on peut observer quand on regarde l'évaluation depuis la question de l'évaluation au travail, pas l'évaluation à l'école, mais l'évaluation du travail, ben, ces procédures-là peuvent enlever le sens du travail. Je vous donne deux problèmes en fait de ces façons d'évaluer, deux problèmes majeurs en fait de ce que produisent le fait qu'on rend des bilans, qu'on rend un rapport d'activité. Alors ça ne veut pas dire que je trouve que ce n'est pas intéressant, qu'il n'y a pas des choses super intéressantes à faire avec les rapports d'activité. Ça veut dire que je tire des enjeux de l'évaluation à l'école et des effets qu'elle produit contre-productifs, des choses qu'on peut faire avec ces rapports d'activité qui sont en effet contre-productives et qui nuisent au sens du travail pour chacun des travailleurs. Vous voyez ce que je cherche à faire ? Oui ? Alors, ces deux choses, la première chose, elles sont inspirées des travaux de Christophe Dejour que je vous conseille vraiment de lire sur l'évaluation au travail. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Vraiment, je trouve que ça nourrit la réflexion et ça met des balises intéressantes du point de vue de l'évaluation au travail. La première chose, c'est que à l'école, on a appris à mentir. Enfin, l'évaluation, ça crée toute une habitude de rapport au fait qu'on doit avoir l'air de savoir. Alors, c'est pas nécessairement des mensonges massifs, etc. C'est juste que quand on est évalué régulièrement, il faut toujours qu'on fasse comme si on savait. Et ça donne vraiment une habitude de se demander quelle est l'attente du prof et pas le sens de l'activité. Donc, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner qui correspond à ce qu'il veut. Et en fait, vous voyez que ça désolidarise un peu de ce que je fais, le sens que ça a pour moi, ce qui compte pour moi, qui est structurant de la première façon d'évaluer, du rapport subjectif à l'évaluation. Donc, quelque chose qui est mensonger. Alors, c'est un mot fort qu'emploie Christophe Dejour, mais en fait, ça ne dit rien d'autre que des pièges dans lesquels on est pris quand on écrit un rapport, où on emploie le vocabulaire de l'administration, à commencer par l'articulation entre moyens fins, les indicateurs, etc., tout ça. Et puis, toute une série de vocabulaire dont on sait que c'est bien de le mettre dans le rapport. Et puis, on est obligé, en fait, de fabriquer quelque chose qui nous permet en effet de justifier l'intérêt de ce qu'on fait au regard de celui qui va l'inspecter et qui va examiner si oui ou non on mérite bien les subventions qu'on a. Donc c'est ce type de rapport-là qui est problématique, c'est que dès qu'on est pris là-dedans, ben, ça veut dire qu'on ne peut plus coller à ce qu'on fait, comment on le fait et comment ça a du sens pour nous. La deuxième chose, c'est la question de l'évidence de l'objectivation de l'évaluation et du carnage que ça produit. Alors, de nouveau, je le dis, comme attention à la recherche d'objectivité, ça ne veut pas dire soyons hyper subjectifs et que subjectifs. Soyons juste vigilants à ce que provoque la recherche d'objectivité de l'évaluation. Parce qu'évidemment, la première évaluation, elle est parfaitement subjective. Tellement subjective que elle est même pas toujours consciente. Il y a plein de choses que j'évalue, je sais même pas que je les évalue en fait. Je sais même pas quelle leçon j'en tire. En tout cas, je le sais pas en conscience claire. Alors l'évaluation, au contraire, objective. Vous voyez que c'est une recherche depuis l'école. Ça va de soi à l'école qu'on essaye d'objectiver l'évaluation pour une raison, c'est que un élève ne doit pas tomber sur l'arbitraire d'un prof. Tiens, si je suis évaluée par ce prof-là, j'ai 12, et si c'est celui-là, j'ai 3 sur 20. Vous voyez ça ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour quitter cet arbitraire du prof ? Ben, on met en place toutes sortes de stratégies qui font une sorte de justice de l'évaluation, mais qui sont quand même assez coûteuses. Ça veut dire qu'on évalue avec des critères d'évaluation, qu'on fixe par avance, on va vous évaluer sur telle chose, on fixe des indicateurs, ce qui va nous permettre de voir si effectivement vous savez faire telle chose, c'est que vous savez, c'est que vous produisez telle et telle et telle et telle petite chose. voyez que le travail aujourd'hui, il est pris là-dedans. Il est pris dans ces grilles, en fait, moyen-fin, et dans cette question de l'objectivité de l'évaluation. Alors, ce que ça produit, en effet, c'est des choses comme ce que Benoît a commencé à évoquer, qui est notamment la loi Goddard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Olivier, Amand, et le fait qu'on finit par viser à remplir les critères eux-mêmes, à remplir les indicateurs eux-mêmes, et que dans le fond, dans ce processus-là, on perd le sens de l'activité, on est juste pris dans du bachotage, par exemple, à l'école, ou dans du résultat chiffré. Quand on fait de l'évaluation du travail, la police va finir par faire des tas de PV d'intervention. Elle a verbalisé, mais tout le travail invisible sera passé à la trappe parce qu'on n'arrive pas à le comptabiliser dans un rapport d'activité. Alors, ce que je voudrais, au bout du compte, la direction qui me semble être intéressante, c'est se demander... Est-ce qu'on arrive à rendre ce processus d'évaluation subjectif, d'une part plus conscient? C'est ce que je fais quand je fais quelque chose, une animation, une conférence. Et, alors ça peut être filmé, ça peut être, on est plusieurs, on a assisté, se demander ce qui s'est passé au juste, et parfois même pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Avoir un regard sur soi qui permet d'aller décoder des choses qu'on ne sait même pas de soi. J'ai appris des choses, par exemple, je sais que je regarde seulement d'un côté, et que du coup, enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut apprendre grâce à du partage, d'une évaluation de petites choses à observer, et où on arrive à apprendre de ce qu'on fait, de ce qui nous meut, des choses inconscientes, dans le fond. Alors, ça, c'est une chose, mais c'est comment ce sens du travail au quotidien, pourquoi on fait ce qu'on fait, peut devenir un sens intersubjectif. Comment on peut, dans une équipe, se demander régulièrement, tiens, pourquoi on fait ces animations-là, comment on les fait, aller s'observer, en tirer des petites lignes directrices. Et ce qui compte aussi, c'est de mettre en balance ce travail et de le valoriser comme tel. Mon problème, c'est qu'on met tellement l'axe sur l'angle objectif de l'évaluation, ça comme un enjeu massif, qui est aussi un enjeu d'aller chercher des subventions et de justifier notre activité, qu'en fait, tout ce travail-là, on n'arrive pas à le valoriser comme étant proprement de l'évaluation, et comme étant proprement pourtant ce qui donne le sens et la finesse de notre travail. Ce que dit Christophe Dejour, c'est... À un moment donné, les procédures d'évaluation dans le monde du travail, elles font que des tas de gens sont obligés de faire en façade ce qui permet de justifier la subvention, ce qui permet de garder sa place, etc. Mais la réalité massive du travail se passe à côté, et même dans le mensonge, dans le fond, tout ce qu'on doit faire qui est à côté de la procédure, par exemple, à côté de la procédure de sécurité, à côté des objectifs définis, et qu'on est obligé de faire pour le travail marche, pour qu'il ait du sens, et qu'on doit cacher. Donc ce que je dis, c'est comment on arrive à remettre ça dans le rapport d'activité, pour que le rapport d'activité ne soit pas une façade sur « on a tout bien fait comme il fallait », et dans le fond, on est dans un dialogue un peu faux avec, par exemple, l'administration, alors qu'en fait, on pourrait très bien se dire... en tout cas, c'est vraiment un risque. Alors, plus ou moins faux, vous voyez que c'est pas de la pure tricherie non plus, il faut pas exagérer. Mais en tout cas, comment remettre tout ce petit travail patient qui fait le sens profond du travail, tout ce rapport intersubjectif, subjectif puis intersubjectif, dans un rapport qui permet aussi de donner des lignes plus générales. On sait pourquoi on a fait ça, et on s'est donné aussi parfois un sens du travail au pas à pas. Voilà.